Merci d'écouter Radio France Internationale, midi et demi en temps universel. Il est 14h30 à Paris et c'est l'heure d'Afrique Midi. Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Anne Cantner, bonjour à toutes et à tous. L'an 1 de l'AES, le 16 septembre 2023, les juntes au pouvoir au Mali, au Burkina et au Niger créent l'Alliance des États du Sahel, une alliance devenue confédération dont on fait le bilan dès le début de ce journal. 30 personnalités lancent un appel à la libération de Mohamed Bazoum, l'ancien président du Niger, est détenu à Niamey avec son épouse depuis le coup d'État. Le Sahel noyé sous des pluies diluviennes, le Tchad est le pays le plus touché et N'Djamena n'est pas épargné. Plus de 60 000 de ses habitants sont sinistrés selon les derniers chiffres disponibles.
Comment réduire les risques? Comment empêcher des inondations aussi catastrophiques dans la capitale? Tobron Dilbé, maître de conférence en géographie urbaine et en urbanisme à l'université d'Abéché, est l'invité d'Afrique Midi.
Il y a tout juste un an, les régimes militaires au pouvoir au Mali, au Burkina et au Niger signaient la charte du Liptako-Gourma et créaient l'Alliance des États du Sahel. But affiché de cette AES, combattre ensemble les groupes armés qui sévissent dans ces pays. Aujourd'hui, l'Alliance est devenue confédération avec un périmètre d'action élargi. David Bachet, quel bilan peut-on tirer un an plus tard?
L'AES, c'est d'abord un pacte de défense et la promesse d'une mutualisation des moyens militaires des trois pays pour faire face aux groupes armés considérés comme terroristes. Un an après, bilan mitigé, l'armée malienne a délogé les rebelles du CSP de son fief de Kidal. Une victoire incontestable, obtenue grâce à ses supplétifs de Wagner et non à ses alliés du Niger ou du Burkina. Quant aux attaques des djihadistes du Jnim liés à Al-Qaïda, elles n'ont jamais été aussi nombreuses et meurtrières. Plus de 3000 civils tués dans les trois pays de l'AES entre janvier et juin dernier, 2500 lors des six mois précédents, selon l'ONG Acled. Des chiffres, des morts qui n'ont cessé d'augmenter ces dernières années. Un plan d'action des opérations des pays de l'AES est en préparation, mais à ce jour, les soldats maliens, burkinabés et nigériens ne combattent pas côte à côte. Écoutez ce qu'en dit Arthur Banga, spécialiste des questions de défense à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan.
Il y a des appuis, notamment des appuis de drones, des appuis aériens, des échanges d'informations. Après, d'un point de vue de la réussite opérationnelle, ce bilan est beaucoup plus mitigé. Il faut aussi le mettre en application à travers d'abord la doctrine des états-majors communs, des exercices d'intervention. Il y a tout ça qui manque.
Alors l'AES, hein, David Bachet, ça n'est pas qu'un outil militaire, c'est aussi un outil diplomatique.
Et en janvier dernier, les trois pays en ont fait la démonstration. Ils quittent conjointement la CEDEAO au nom de leur souveraineté. Les soutiens des régimes militaires jubilent, les acteurs économiques frémissent. Le maintien des trois pays au sein de l'UMOA limite cependant les conséquences. Pour les voix les plus critiques, l'objectif est de permettre le maintien des militaires au pouvoir. Enfin, depuis juillet, les pays de l'AES forment une confédération. Des instances communes sont annoncées, notamment un collège des chefs d'État. Hier soir, dans une allocution, le colonel Assimi Goïta, président de transition du Mali et président en exercice de la Confédération de l'AES, a promis la mise en place d'une banque d'investissement, d'un fonds de stabilisation, d'un passeport biométrique de l'AES et d'une chaîne d'information commune. Dernier point qui ne sont pas inscrits dans les textes de l'AES, mais que le Mali, le Burkina et le Niger ont en partage, le partenariat privilégié établi avec la Russie et la grave détérioration des droits humains et des libertés publiques.
Et à ce propos, Burkina Faso, ce sont ces derniers jours des proches de Djibril Bassolé qui semblent dans le collimateur. L'ancien aide de camp et le fils aîné de l'ex-ministre des Affaires étrangères de Blaise Compaoré ont été emmenés vers une destination inconnue par des individus non identifiés. Les domiciles des enfants de Djibril Bassolé ont aussi été fouillés, des téléphones et des ordinateurs saisis. Hier, des hommes armés se sont aussi présentés à la clinique dans laquelle se trouve la fille de l'ancien ministre. Des méthodes que dénonce Djibril Bassolé aujourd'hui en exil.
C'est contre ma personne, parce que mes enfants n'ont jamais fait de la politique, ils ne sont pas impliqués dans les affaires politiques. S'ils sont aujourd'hui persécutés, c'est pour moi, c'est pour m'atteindre, c'est pour me déstabiliser, c'est pour me faire mal. On vit des moments terribles avec mon épouse, de savoir nos enfants mis en danger de mort comme ça, simplement parce que moi, j'ai voulu m'exprimer sur la situation de sécurité de mon pays et de la sous-région. Ce sont des méthodes vraiment que nous dénonçons avec la plus grande énergie. Mais la liste de nos enfants ne fait que rejoindre la longue liste des centaines de Burkinabés aujourd'hui qui sont victimes d'exactions, de répressions et qui vivent un enfer aujourd'hui.
Djibril Bassolet, joint par Magali Lagrange. Un appel à la libération de Mohamed Bazoum. Il est lancé par une trentaine de personnalités dans une tribune publiée hier par le quotidien français Le Monde. Depuis le coup d'État de juillet 2023, l'ancien président du Niger est retenu à la résidence présidentielle de Niamey avec son épouse. Une détention arbitraire, déplorent les signataires. Parmi eux, les prix Nobel congolais Denis Mukwege et nigérian Wole Soyinka, des juristes et le philosophe camerounais Achille Mbembe.
Mohamed Bazoum a été abandonné à ses geôliers. C'est la réalité. Et donc, la tribune a pour objectif de rappeler à la conscience du monde l'existence de ce tort qui est fait à quelqu'un qui n'a rien à faire en prison. Il y a son épouse, il y a lui-même. Ils sont même pas en prison. Ils sont retenus en tant qu'otages par les autorités nigériennes en l'absence de toute procédure juridique. C'est une affaire de principe, c'est une affaire très simple. Mohamed Bazoum n'a rien à faire en prison tant qu'il n'a pas été condamné par la justice de son pays. Et l'Afrique ne va pas se développer avec des pratiques de ce genre.
Achille Mbembe, signataire de la tribune appelant à la libération du président Mohamed Bazoum. Une information de notre correspondant au Bénin. Deux policiers tués hier après-midi dans l'arrondissement de Kompa à Karimama. On est dans le nord-est du pays, à la frontière avec le Niger. Ces deux policiers à moto revenaient d'une patrouille quand ils sont tombés dans une embuscade tendue par des terroristes. La police et les autorités n'ont encore rien dit sur cette attaque. Un événement très attendu au Nigeria. Les premiers camions-citernes chargés d'essence sont sortis hier de la raffinerie du milliardaire Aliko Dangote. Alexis Bédu, après 8 ans de travaux et des mois de négociations, le Nigeria, qui est parmi les premiers producteurs de brut du continent, peut enfin consommer son propre pétrole raffiné.
Oui, jusque-là, le Nigeria importait la quasi-totalité de son pétrole. Une anomalie corrigée avec la mise en service de la raffinerie Dangote. Capacité de production à terme 650 000 barils par jour, ce qui permettrait d'approvisionner la totalité des stations du pays et même d'en exporter une partie. De quoi soulager la population. Les pénuries d'essence se sont multipliées ces derniers mois. La compagnie pétrolière, la NNPC, s'engage donc à fournir 385 000 barils de brut par jour à la raffinerie Dangote. Elle sera en échange l'unique distributeur d'essence de la raffinerie. Le carburant de Dangote devrait être disponible à la pompe début octobre. Et malgré l'accord, les premiers camions-citernes à peine sortis, des bisbilles éclatent entre les deux parties. La NNPC annonce qu'il y aura une augmentation du prix de l'essence de 11%, une façon de mettre la pression sur les tarifs pratiqués par Dangote. Et la raffinerie répond et exhorte les Nigérians, je cite, à ne pas tenir compte de cette déclaration malveillante et à attendre une annonce officielle sur la tarification.
Les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de la RDC se sont retrouvés ce week-end à Luanda pour une 4e réunion de pourparlers. Cette rencontre visait à relancer le dialogue entre les deux pays. Le Rwanda soutient les rebelles du M23, mais accuse Kinshasa de soutenir d'autres rebelles, ceux du FDLR. Pas de réelles avancées à l'occasion de ces discussions. Toutefois, un point nouveau est apparu lors de la réunion. La médiation angolaise a présenté un compte-rendu de ses échanges avec l'Alliance Fleuve Congo, qui inclut des représentants du M23, Passion Ligodi.
C'est un sujet délicat qui met les autorités congolaises dans l'embarras, elles qui refusent toujours un dialogue direct avec l'Alliance Fleuve Congo, AFC. Après de nombreuses discussions, la présidence angolaise avait dépêché un avion pour rencontrer les délégués de ce mouvement. Selon plusieurs sources, 4 délégués de l'AFC se sont rendus à Luanda du 31 août au 3 septembre où ils ont eu des discussions directes avec les conseillers du président angolais. Ces échanges ont porté sur les conditions et modalités des mises en œuvre du cessez-le-feu initialement prévu pour rentrer en vigueur le 4 août, mais qui n'a toujours pas été respecté. Pour l'AFC, le processus de Luanda serait incomplet s'il ne prenait pas en compte ce qu'elle considère comme les problèmes internes à la RDC, au-delà de la crise entre Kinshasa et Kigali. Le mouvement s'est dit prêt à aborder ces questions, mais exige un dialogue direct avec les autorités congolaises. L'AFC pose comme préalable notamment l'annulation de la résolution de l'Assemblée nationale congolaise, interdisant toute négociation avec ces mouvements. Ces délégués ont indiqué qu'il existe des causes profondes à cette crise qu'ils ne souhaitent révéler que lors de ce dialogue directe qu'ils réclament. Lors de la réunion de ce week-end à Luanda entre les parties congolaises, rwandaises et angolaises, certaines sources rapportent que les délégués de Kinshasa ont fermement rejeté ces propositions, réaffirmant qu'il n'est toujours pas question d'un dialogue direct avec l'AFC. Passion Ligodi, Kinshasa, RFI.
Le gouvernement de Moroni avait annoncé sa participation hier soir à une cérémonie religieuse, mais le président comorien Azali Assoumani n'a pas fait finalement le déplacement. En fait, il n'est pas réapparu en public depuis son agression au couteau vendredi par un jeune militaire. Une absence qui alimente les spéculations, tout autant que la mort en détention le lendemain de son agresseur présumé, Abdelham Zembaba.
Cela devait être sa première apparition publique depuis l'attaque au couteau qu'il a visée vendredi dernier. Mais le chef de l'État n'est pas venu à la cérémonie religieuse à laquelle il était attendu. Néanmoins, le gouvernement comorien se veut rassurant sur l'état de santé du président Azali Assoumani. D'après Mahmoud Salim Hafi, secrétaire général adjoint du gouvernement, l'absence du chef de l'État est liée à une recommandation médicale.
Vous savez que le président a été légèrement blessé, comme on l'a annoncé samedi en conférence de presse. Aujourd'hui, ce sont ses médecins qui ont donné une recommandation à ce que le chef de l'État se repose. Il n'y a pas de mystère ni silence, c'est juste une question de bon sens de notre part. Mardi, il reprendra ses occupations.
Sifarmi Saïd Ibrahim El Masseli, avocat et ancien ministre d'État, condamne l'attaque contre Azali Assoumani. Il estime que des zones d'ombre persistent autour du décès d'Ahmed Abdou, l'assaillant.
Il est décédé. Dans quelles conditions ? Et quelles sont les causes, surtout, qui ont pu entraîner la mort de ce garçon, n'ont pas été clairement révélées. Je pense qu'il est nécessaire que le gouvernement sorte de son mutisme et nous explique exactement ce qui s'est passé. Les Comoriens ont droit de savoir la vérité et c'est fondamental.
L'absence publique du président continue d'alimenter le débat, ainsi que les circonstances de la mort de l'assaillant, qu'aucun membre de l'exécutif n'a encore commenté. Abdelham Zembaba Moroni.
Il est 15h41 à Moroni.
Afrique Midi sur RFI.
Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, les autorités centrafricaines prennent des mesures contre la vente de denrées avariées dans les rues de Bangui. Et les sports avec la fin hier des matchs du deuxième tour préliminaire aller des Coupes d'Afrique des clubs. En Centrafrique, les vendeurs de rue n'ont plus le droit de proposer certains produits alimentaires. Décision du ministère du Commerce suite à la découverte de marchandises avariées. Certains consommateurs applaudissent cette décision, mais les commerçants, eux, font plutôt grise mine. À Bangui, le reportage de Rolf-Steph Domialeux.
Au centre-ville de Bangui, il est désormais difficile de croiser des vendeurs à la sauvette. Pourtant, on les voyait déambuler au bord de la route ou dans les marchés, portant sur la tête des cartons de yaourt, sardines, fromage, confiture, saucisson, lait ou encore des jus en carton. Le visage pâle, Herman doit dire adieu à son commerce de revendeur ambulant.
Ce commerce représente tout pour moi. Je trouve que la décision du gouvernement est dure parce que ce n'est pas tout le monde qui vend des produits périmés. Les autorités ont pris cette décision sans nous avertir et sans proposer une porte de sortie. Depuis deux semaines, je suis au chômage et je ne sais comment faire.
Cette mesure, selon Thierry Patrick Akolosa, ministre du Commerce, est un début de solution à la vente des produits périmés en République centrafricaine.
Depuis le mois de juin, nous avons commencé à faire des saisies des produits avariés et périmés dans les rayons des magasins supermarchés. Et les responsables de ces magasins supermarchés mettent à disposition de ces jeunes compatriotes et ils vendent ça dans les rues, dans les marchés, à domicile même. C'est des produits qui sont vendus à vil prix, alors que c'est du poison. Et donc nous avons pris la mesure de dire qu'il ne faudrait plus que ces vendeurs à la sauvette vendent ces produits que nous avons énumérés.
Dans tous les coins stratégiques de la capitale, les forces de sécurité intérieure veillent à l'application de cette mesure. Rolf Esteb Domialle, Bangui, RFI.
Les sports du football avec la fin hier des matchs du deuxième tour préliminaire aller des Coupes d'Afrique des clubs. Olivier Pron. On commence par la Ligue des champions et des favoris qui tiennent leur rang.
Eh ben oui, notamment le champion sortant, Nicolas, les Égyptiens d'Al Ahly, large vainqueur au Kenya de Gor Mahia 3-0. Trois buts d'avance aussi pour le finaliste malheureux de la dernière édition, l'Espérance Tunis, vainqueur 4-1 des Somaliens de Dekadaha. Probant succès également du Stade d'Abidjan, qui a dominé les Guinéens du Milo FC 2-0, d'où la satisfaction forcément de l'entraîneur français du Stade d'Abidjan, Alexandre Lafitte, très tactique.
Je pense que c'était un match abouti. On aurait dû et on aurait pu marquer plus de buts. Et ça nous aurait permis de tuer la qualification, mais malheureusement, c'était pas le cas. Il y a eu des très bonnes choses. On a eu énormément de situations dans leur surface et on a réussi, dès qu'on perdait le ballon, à mettre une énergie et un plan de jeu afin d'éviter qu'ils viennent se rapprocher de nos 30 derniers mètres.
Alexandre Lafitte avec Youen Gourlet, autres Ivoiriens en lice, ceux du FC San Pedro qui ont concédé le nul de partout face au Soudanais d'Al Hilal Omdurman. Même score pour les Ghanéens, entre les Ghanéens de Samartex et le Raja Casablanca. Match retour le week-end prochain, Nicolas.
En Coupe de la Confédération à présent, moins de réussite hein, pour le représentant ivoirien, l'ASEC Abidjan.
Bah, battu 2-1, les Mimos, effectivement, chez les Togolais de Lasco de Kara. Dominateur mais stérile en première période avant de craquer en seconde. L'entraîneur de la SEC, Julien Chevalier, a son explication.
Notre adversaire avait l'avantage d'être entré en compétition plus tôt. Donc nous, on a payé aujourd'hui pour voir. Ça y est, on est rentré dedans et on a réussi à mettre un but très important. Ce but dans les arrêts de jeu peut changer beaucoup de choses pour le match retour.
Le match retour le week-end de prochain, Julien Chevalier avec Comelan et Clou. Ce sera même dimanche prochain le retour. Parmi les autres résultats de victoire à l'extérieur, celle des Zimbabwéens du Dynamo aux FC, 1-0 sur le terrain des Botswanais d'Orapa United. Et puis 1-0 aussi pour le CS Faxien face au Burundais de Rukinzo. Enfin succès à domicile pour les Angolais de Bravos Domakis. 1-0 sur les Congolais du FC Saint-Éloi-Loupopo.
Le musée des cultures contemporaines Amadou Tunkara d'Abobo à Abidjan rend hommage au travail de Mathieu Jean-Jansin. Ce peintre d'origine martiniquaise fête ses 90 ans. Il vit en Côte d'Ivoire depuis 1960. Au Mukat, le reportage de Binta Diagne.
Petit béret et lunettes noires, Mathieu Jean-Jansin navigue entre ces toiles qui illustrent la sorcellerie, à l'image de rituels qui montrent un personnage entouré de fétiches.
Le personnage est assis et avec les canaris, les gris-gris qui sont à ses pieds au moment de la consultation. On voit des masques et puis les couleurs qui symbolisent évidemment l'environnement.
Né en Martinique, Mathieu Jean-Jansin a étudié les beaux-arts à Paris. Il s'installe en Côte d'Ivoire au moment de l'indépendance en 1960. Et c'est ici, quartier d'Alas, dans la commune d'Adjamé, qu'il lance le mouvement Négro-Caraïbe qui met en lumière ses racines.
La racine, si vous voulez, au départ, au point de vue technique, ce sont les impressionnistes. Depuis déjà même de la Martinique, nos professeurs nous avaient déjà dit « ce n'est pas la peine d'aller chercher ailleurs ». Ce que vous avez à portée de la main, ce que vous vivez dedans et depuis X temps.
Mathieu Jean-Jansin fait son service militaire à Boaké. Pendant 2 ans, il sillonne le nord de la Côte d'Ivoire et découvre ses rites.
L'endroit qui m'a le plus impressionné, justement, c'est Korogo. Parce qu'il y a le côté mystique de la chose même. J'ai assisté à la sortie du bois sacré. J'ai des toiles d'ailleurs que j'ai peintes là-dessus, où on voit cette démarche très noble de la sortie et de l'entrée dans le bois sacré.
Cette exposition montre aussi des œuvres beaucoup plus récentes, dont des toiles réalisées avec Zifou et Zoro Zipa, deux artistes du street art abidjanais. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
Il est midi 48 à Abidjan. Anne Kantner, les grands titres de ce lundi 16 septembre.
Les réactions nombreuses après ce qui s'apparente à une tentative d'assassinat contre Donald Trump, la deuxième en 2 mois. Le FBI enquête, Joe Biden et Kamala Harris se disent soulagés que le candidat républicain soit sain et sauf. Et le président américain ajoute que tous les moyens nécessaires seront accordés à son sécurité. Il précise aussi qu'il n'y a pas de place pour la violence politique aux États-Unis. On en parlera dans une dizaine de minutes maintenant. La démission de Thierry Breton, candidat pour un second mandat de commissaire chargé du marché intérieur au sein de l'Union européenne. Il s'estime désavoué par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Le président français Emmanuel Macron a désigné l'éphémère ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné pour lui succéder. Au moins 15 morts, des milliers de déplacés en Europe centrale, c'est le bilan de la tempête Boris. La Pologne, la République tchèque notamment, demandent l'aide de l'Union européenne. Et puis le procès du siècle au Royaume-Uni, Manchester City contre la Premier League. On vous dit tout dans nos journaux des sports. Le Tchad est l'un des pays les plus durement éprouvés par les inondations, par les fortes pluies qui tombent depuis plusieurs semaines maintenant sur tout le Sahel. Et la capitale, N'Djamena, n'a pas été épargnée avec, selon les derniers chiffres disponibles, 13 morts, plus de 60 000 sinistrés et près de 10 000 maisons détruites. Dans ce contexte catastrophique, un regard dans Afrique Midi, celui de Tobro Ndilbe, maître de conférences en géographie urbaine et en urbanisme, enseignant, chercheur consultant à l'université d'Abéché, auteur cette semaine d'une tribune passionnante, N'Djamena, entre inondation et fonctionnalité, une ville nouvelle comme panacée. Il est votre invité, Nicolas Sûr.
Bonjour, Tobrun Dilbé.
Bonjour.
Un mot tout d'abord sur l'histoire, si vous le voulez bien. Vous rappelez que la ville historique de N'Djamena, sur la rive du fleuve Chari, avait été construite en anticipant le risque de crue et d'inondation. Qu'est-ce que le commandant Gentil, fondateur de l'ancienne Fort Lamy, avait prévu en 1900?
Effectivement, cet état de choses était perçu. C'est pourquoi les sites les plus exondés ont été choisis pour l'implantation des premiers camps, donnant ainsi naissance à la bourgade qui a servi à l'établissement de Fort Lamy. Et je pense que tous les premiers documents d'urbanisme de l'époque coloniale ont intégré effectivement ces risques d'inondation. Cet état de choses est attesté par la plupart des bâtiments qui sont construits en pilotis, sur pilotis, dans cette partie coloniale de la cité.
Il y avait également des réseaux d'évacuation des eaux.
Justement, il y a eu tout un système de canalisation avec des écluses pour pouvoir effectivement parer à l'essentiel des eaux de précipitation et d'inondation fluviale notamment qui pourrait se produire.
Alors c'est après l'indépendance que ça dérape en quelque sorte. Qu'est-ce qui n'a pas été fait?
Et durant la période coloniale, cet état de choses était contrôlé parce qu'il fallait filtrer l'accès à la ville à travers l'obtention ou bien la détention de laissez-passer. Et aux indépendances, le verrou a été levé en faisant en sorte que l'arrivée massive des populations en ville n'ont pas été anticipée par les pouvoirs publics du Tchad indépendant. Donc les occupations ont commencé par se faire de façon spontanée, précédant ainsi tous les travaux d'urbanisme, d'implantation des réseaux d'évacuation d'eau qui devait être implanté au préalable pour permettre à la ville de parer à toutes les situations d'inondation sous quelque forme que ce soit.
Parce qu'il y a beaucoup de terrains N'Djamena qui sont en fait des terrains d'argile et de basse altitude sous les eaux du fleuve.
Si vous voyez aujourd'hui sur la dizaine d'arrondissements qu'abrite la capitale N'Djamena, il y a seulement 2-3 qui correspondent effectivement à ce noyau pétrocolonial qui sont exempts de l'inondation. Tout le reste, la ville a été implantée sans pour autant tenir compte des zones qui pouvaient être propices à l'urbanisation ou pas.
Alors un projet d'étude pour la création d'une ville nouvelle a été lancé en juillet et finalement abandonné au début du mois. Mais pour vous, si je vous comprends bien, la solution n'est pas de créer une ville nouvelle, mais plutôt de réformer l'existant.
La solution, de mon point de vue, c'est de procéder effectivement à des restructurations. C'est de se servir peut-être de ce petit comité qui a été mis en place pour pouvoir réfléchir à la création de la ville nouvelle, pour établir un diagnostic réel de l'existant, pour pouvoir effectivement étendre les réseaux d'évacuation, les réseaux d'assainissement qui n'ont pas été prolongés et permettre ainsi à la capitale N'Djamena de sortir un peu de cette situation déplorable où elle se trouve.
Et en dehors du développement des réseaux d'évacuation des eaux, vous pointez aussi de toute façon un problème d'entretien. Ils sont obstrués notamment par des déchets.
Dans ce registre-là, la population a une grande part de responsabilité et ceci s'explique aussi dans la mesure où le système de gestion de déchets dans la capitale tchadienne laisse à déplorer, en ce sens qu'il y a très peu de dépotoirs officiels et les populations n'ont pas d'autre choix que de pouvoir créer ces dépotoirs spontanés à l'air libre et avec le contexte climatique fait de vent et de précipitations, d'ouvrages qui ne sont pas totalement couverts également.
Alors, il y a un autre point que vous relevez, c'est en quelque sorte l'artificialisation des sols. Et vous nous dites des infrastructures vertes permettraient de lutter contre la chaleur et les inondations. Qu'est-ce que vous entendez par infrastructure verte?
D'abord, ce qu'il faut relever, c'est que c'est le trop plein d'eau en N'Djamena qu'il faudra prendre en charge. Et dans ce registre-là, il faudrait urbaniser de telle sorte à accorder des facilités d'infiltration de d'eau. Et l'artificialisation, effectivement, ce serait le coût excessif au béton, au bitume, un peu partout dans la ville. Les infrastructures vertes, il y a des solutions techniques qui existent et qui portent effectivement sur le recours à ces infrastructures vertes qui sont des infrastructures qui ont une forte capacité d'atténuation des effets liés au changement climatique, notamment dans le domaine de l'inondation, dans le domaine de la prévention des îlots de chaleur. Et l'action à mener peut-être, c'est de revisiter un peu le permis de construire pour pouvoir inciter tous les travaux de construction à venir et de rénovation qui devront se faire au sein de la capitale à privilégier cette approche-là pour pouvoir donner la possibilité à l'eau de s'infiltrer. libérer peut-être des espaces verts qui ont été systématiquement accaparés au sein de la capitale, lever des espaces pour pouvoir permettre effectivement à la ville de pouvoir s'aérer. Donc c'est tout un mécanisme, tout un dispositif qu'il faudra ainsi mettre en place.
Et pour cela, il faut une volonté politique, il faut des lois et des règlements. Est-ce qu'ils sont suffisants, satisfaisants à l'heure actuelle au Tchad?
Bon, les lois, il faudrait effectivement les révisiter au regard des dysfonctionnements qu'on a observés. Je viens d'indexer là le permis de construire qui devrait être révisé pour inciter à l'utilisation des infrastructures vertes. Il y a également tout le pan de la planification urbaine qu'il faudra remettre sur la question, de telle sorte à donner d'abord dans un premier temps la parole aux techniciens qui feront des propositions qui seront validées par le pouvoir décisionnaire, soit l'Assemblée, soit le Conseil des ministres. Et une fois que ces textes de loi sont adoptés officiellement, il va falloir les appliquer. Le hic est qu'il y a des premiers documents de planification qui existent, n'ont pas totalement été appliqués. Il y a beaucoup de réserves, il y a beaucoup d'espaces verts qui ont été désaffectés et l'ensemble de ces petites choses ont concouru à déboucher sur cette situation déplorable à laquelle nous sommes confrontés actuellement. Donc effectivement, la solution de départ, c'est la volonté politique parce que sans le politique, on ne peut non seulement mobiliser les textes de loi, mais également mettre en action les différents types d'acteurs qui auront dans ce contexte-là une obligation de résultat.
Tobron Dilbé, merci beaucoup. Cet entretien sera retrouvé sur le www.rfi.fr et sur nos applications rubrique Invité, onglet Invité d'Afrique Midi. Tout au long de cette semaine, nous vous invitons à la découverte d'objets historiques emblématiques de leur pays. Direction aujourd'hui la République démocratique du Congo. Gros plan sur le masque Mwanapo. On le trouve dans tous les musées du pays. Il symbolise la fertilité et la sagesse de la femme. Dans la communauté Tchokwe dont il est originaire, il était notamment utilisé lors des cérémonies d'initiation de Nismaeo.
Sculpté dans un bois, c'est le joli visage d'une jeune fille qu'on découvre sur le masque Mwanapo. On y observe des scarifications sous les yeux. Sa tête est recouverte de tresses traditionnelles. Pendant la période d'initiation des jeunes filles et garçons, ce masque Tchokwe joue le rôle de protection, explique André Mousseno, un membre de la communauté Tchokwe.
Puisque Mwanapo doit d'abord garder les gens qui sont dans l'initiation. C'est Mwanapo qu'on appelle aussi Natifa, qui signifie celle qui va amener à manger aux jeunes garçons et aux jeunes filles.
L'initiation est cette période qui marque le passage de la vie de jeune fille à l'adulte. Et à la clôture, il y a un spectacle de danse et de chant qui vise à enseigner aux initiés leur rôle et leur responsabilité en tant que femme dans la société, explique encore André Mousseno.
Mais qui vient en premier lieu? C'est Mwanapo. Ils viennent en dansant avec des cris de joie, avec des poudres, des kaolins. Le chef est là, il se met debout.
Aujourd'hui, le masque Mwanapo fait partie du patrimoine congolais. Un groupe d'élèves en visite au musée de Lubumbashi est guidé par Anne-Marie, chargée d'animation, le découvre.
Mwanapo, qui est là. Quand on porte le masque, on se couvre tout le corps. Parce que les gens qui portent le masque, ce sont des personnes sacrées.
La réputation de ce masque va au-delà du secteur culturel. Depuis 1998, Mwanapo figure sur le billet de 50 francs congolais. Philippe Mikobi, directeur adjoint du musée de Lubumbashi, se souvient.
À la sortie de ces billets-là de 50 francs, je me rappelle bien, le gouverneur à l'époque de la Banque centrale avait expliqué, soi-disant, que si on a choisi le masque Mwanapo, c'est un masque de valeur, hein, au même titre que la valeur qu'on donne à la femme.
Une valeur que la société traditionnelle reconnaissait à la femme, affirme Patti Mastaki. Il est enseignant de l'histoire de l'art à l'Institut supérieur d'art et des métiers à Lubumbashi.
70% des œuvres d'art africaines sont des femmes qui sont représentées. Alors, on dit que la femme n'était pas valorisée, tout ça, mais pourquoi la femme était plus représentée? On ne savait pas le dire, mais on pouvait l'exprimer par des œuvres d'art.
Le masque Mwanapo est également apprécié des collectionneurs et des amateurs d'art du monde entier. Denise Mayo, Lubumbashi, RFI.
Et c'est à Lubumbashi que se referme cette demi-heure africaine réalisée, préparée avec Laurent Chaffard, Benoît Raymond et Cécile Péréard. Merci à eux et merci à vous de nous avoir suivis.
À demain, Nicolas Sûr. Restez avec nous sur RFI. On se retrouve dans 30 secondes pour le journal d'Haïti et des Amériques.
Les couleurs du son et RFI Talent présente Naïssem Jalal en concert gratuit. Retrouvez la flûtiste vocaliste franco-syrienne en duo avec la violoncelliste Lina Belaïd dans le cadre du festival Si rien n'est fait à Paris le 20 septembre à 21h. Plus d'infos sur lesarchescitoyennes.fr.